Un héritier malheureux, Romain Rolland, effectivement, fortune ou infortune de Victor Hugo, c'est une des questions qu'on peut poser aussi à l'occasion de ce colloque. Parce que ma réflexion concerne un écrivain qui est aujourd'hui presque oublié, et cet écrivain, c'est Romain Rolland. Je crois en effet que la méditation sur le destin littéraire assez malheureux de Romain Rolland amène à se poser un certain nombre de questions. Qui sont ? Dans quelle mesure la grande figure de Victor Hugo a-t-elle eu une descendance littéraire et intellectuelle ? Ou peut-on au contraire supposer qu'une certaine image de Victor Hugo est en partie stérilisée, cette descendance ? Un discours officiel qui a fait de Victor Hugo le grand écrivain par excellence et le poète de la République n'a-t-il pas, à travers ce qu'il faut bien appeler l'échec littéraire de Rolland, révélé son pouvoir de nuisance? On sait que Romain Rolland, écrivain engagé, intellectuel de gauche, prix Nobel en 1915, a joui d'une renommée universelle comme romancier, avec entre autres des titres que vous connaissez tous, comme Jean-Christophe, mais aussi comme dramaturge, avec son théâtre de la Révolution, et comme essayiste, avant de connaître finalement la désaffection et l'oubli. Et je crois pour ma part que le sort de Romain Rolland est très emblématique de ce que pouvait donner à une certaine époque l'appropriation naïve d'un héritage tenu pour hugolien. Alors, quand je parle d'héritage, effectivement, je pense que, héritier de Hugo, Rolland l'est dès le départ. Bon, non pas que Victor Hugo ait été son seul maître ou son seul inspirateur. On sait que dans sa formation, des lectures comme celle de Tolstoï, de Shakespeare, de Spinoza, du XVIIIe siècle, ont beaucoup compté. Et cela fait d'ailleurs que les études consacrées à Romain Rolland ont tendance à sous-évaluer l'importance qu'a pu avoir Hugo dans la formation de Rolland écrivain. Mais je crois tout de même que si l'on envisage le climat dans lequel Rolland a grandi, eh bien l'influence de Victor Hugo sur sa personne ne pouvait pas ne pas être déterminante. Et d'ailleurs, en 1937, Romain Rolland a publié sous le titre de « Compagnon de route » une série d'essais consacré à ses auteurs de prédilection. Alors, parmi ses auteurs de prédilection, il y a bien sûr Victor Hugo, voisinant, il est vrai, avec Empédocle, Shakespeare ou Lénine. Alors, le monde dans lequel Romain Rolland a grandi, hein, Romain Rolland est né en 1866, ce monde, c'est celui d'une Troisième République encore fragile. C'est-à-dire que ce régime encore jeune et assoiffé de légitimation spirituelle, eh bien, à partir de 1879, élection de Jules Grévy, et aux alentours, donc, à 1879, 1880 et jusqu'en 1885, eh bien, ce régime s'est tourné tout naturellement vers celui qui, 20 années durant, avait dans son exil incarné le combat de la conscience républicaine. Ce qui fait que tout le paradoxe est là. Nous avons une société de la bourgeoisie triomphante qui pousse souvent écrivains, poètes, artistes à la révolte ou à la marginalité, mais qui en même temps se met à vouer à l'un d'entre eux, et pendant quelques années, se met à vouer à Victor Hugo un culte presque exclusif. Un culte dont les excès, par exemple, font écrire à Zola en 1880, je cite Zola, « On le, c'est Victor Hugo, on le sacre, grand poète, grand dramaturge, grand romancier, grand critique, grand philosophe, grand historien, grand politique, ou pour mieux dire, on lui donne le siècle, de haut en bas, de long en large, il serait à lui seul tout le XIXe siècle. » Fin de citation. Comme tout culte, ce culte a son écriture sainte, d'abord et avant tout les Misérables, ses images pieuses et ses récits édifiants, ceux de l'œuvre, bien sûr, mais aussi ceux de la vie, sachant que l'une ne peut pas aller sans l'autre, ce qui fait qu'on tire Hugo du côté du didactisme. Hugo sera pour la République, ce qu'avait été Homère pour les Grecs, le grand éducateur. À ce titre, d'ailleurs, il faut se reporter aux livres de morale civique qui sont utilisés vers 1880 dans les écoles de la République. Et la lecture de ces livres est extrêmement instructive, puisque ces manuels de catéchisme républicain contiennent des questions sur la vie du grand homme, comme par exemple, que trouvez-vous d'admirable dans la vie de Victor Hugo? Pourquoi Victor Hugo a-t-il habité à Guernesey, etc. Toute cette hagiographie ne va pas sans une schématisation poussée jusqu'à la caricature, voire jusqu'au contresens. C'est un fait que, sanctifié de cette manière, Hugo est expurgé de tout ce qui ne cadre pas avec les valeurs officielles. On réduit cette œuvre à l'illustration d'un message qui se résumerait à quelques grandes idées, attachement aux principes légués par la Révolution française, foi en un avenir libérateur et en un monde pacifié, humanisme, croyance au progrès et au rôle salvateur de l'éducation. Message, en somme, très optimiste, puisqu'il annonce la victoire de la lumière sur les ténèbres par l'action bienveillante d'une France mise au service de l'humanité. En somme, avec un demi-siècle de retard et au prix d'une schématisation qui est la conséquence inévitable de l'idolâtrie, la République réalise le souhait le plus ambitieux du premier romantisme que résumait un aphorisme de Victor Hugo lui-même, je cite, « Quand la foi manque au peuple, il leur faut l'art, à défaut de prophètes, les poètes. » Fin de citation. Ce rôle de prophète de substitution, le régime le fait pendant plusieurs années endosser à Hugo, mais pour mieux l'interdire à tout autre. Sans doute, Hugo conserve-t-il, dans les milieux catholiques et anti-républicains notamment, et aussi dans les rangs d'une gauche nouvelle gagnée au matérialisme, bien sans doute Hugo garde-t-il de solides inimitiés. Mais je dirais que tout cela ne pèse peut-être pas encore trop lourd, du moins dans les années 1880 et jusqu'au tournant du siècle, face à la toute-puissance du discours officiel. Il y a autour de Hugo une espèce d'unanimité républicaine. Hugo, conscience de la République, est aussi son grand homme. Il ne s'agit donc pas simplement d'une œuvre, mais aussi, et peut-être plus encore, d'une image, d'un archétype. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que la genèse de Romain Rolland ait été placée en grande partie sous le signe de Hugo. Hugo, c'est ce prophète laïque à qui la mère de Rolland, pourtant attaché au catholicisme le plus traditionnel, a toujours rêvé de pouvoir présenter son fils. Hugo, c'est aussi le poète que tout le monde connaît et dont beaucoup, sans être pourtant férus de belles lettres, peuvent citer de mémoire au moins quelques vers, comme ces paysans croisés au cours d'une promenade et qui, Rolland ne l'oubliera jamais, étaient en train de déclamer des vers des châtiments. Hugo, c'est enfin ce vieil Orphée que Rolland a eu l'occasion de voir, au bord du lac Clément en 1883, patriarche de l'idée républicaine entrée de son vivant dans l'immortalité. Une biographie récente de Romain Rolland, celle de Bernard du Châtelet, rappelle opportunément ce qu'ont été, en 84 et 85, les manifestations de cette religion civile auxquelles le jeune Rolland avait eu l'occasion de s'associer. En Victor Hugo, Rolland trouve l'exemple du grand écrivain par excellence, mais je crois que tout le piège est là, c'est-à-dire qu'en hypertrophiant l'image par définition simplificatrice, le discours convenu en vient à négliger quelque peu l'œuvre même dans sa diversité et dans sa profondeur. Il faut ajouter que si Rolland, jeune, a de toute évidence été conditionné par ce culte républicain et scolaire de Victor Hugo, cela a sans doute eu pour conséquence de lui inculquer l'idée que Victor Hugo, qui écrit pour tous, n'est somme toute pas si compliqué que cela, ou du moins que le grand homme aurait défini et mis en œuvre des principes qu'il suffirait de suivre pour ajouter à son tour à l'édifice d'une littérature populaire, comme s'il s'agissait en somme de recueillir un héritage. Alors, Rolland, héritier de Hugo, c'est la question que je pose à présent et que l'on peut poser. Disons les choses schématiquement. Romain Rolland voudrait, à son tour, il voudrait bien être le Victor Hugo de son temps, et c'est ce qu'une bonne partie de son public attend de lui. Il y a, de ce point de vue-là, quand on regarde le parcours de Romain Rolland, un indiscutable mimétisme. C'est-à-dire que constamment, on voit Rolland reproduire des schémas de comportement et de pensée qu'il trouve chez Hugo. Une attitude, un regard sur le monde, des thèmes de réflexion. L'attitude, bien sûr, et c'est la première convergence, l'attitude d'un intellectuel de gauche, sachant que l'intellectuel, c'est précisément celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. L'écrivain qui, rompant avec la pratique exclusive des belles-lettres, s'engage et prend parti au risque de heurter et d'affronter son propre milieu. L'intellectuel, c'est en somme l'esprit qui nie bien sûr les convictions de son milieu d'origine, mais qui, au besoin, sait s'opposer à ses compagnons de combat, famille adoptive. C'est Hugo qui récuse le matérialisme de gauche, et qui, dans le socialisme naissant, voit déjà poindre ce socialisme de caserne dont il dénonce la tentation. C'est aussi Romain Rolland qui, pourtant dreyfusard, réprouve cela même qui, dans son camp, se serve de la cause au lieu de la servir. Et c'est encore Rolland qui, jusque dans les années 20, continuera malgré tout à porter un œil assez critique sur la révolution russe, quelles que soient les dérives ultérieures auxquelles il se risquera, et qu'il tentera d'ailleurs d'assumer, non sans un certain malaise. S'il faut en effet tout faire pour hâter le triomphe des justes causes, et pour que les classes sociales enfin réconciliées, comme unies dans la religion laïque de la vérité et du progrès, il faut préciser qu'il s'agit là d'un volontarisme critique, appuyé sur l'idée, et je cite cette phrase de Clérambeau, que les moyens sont encore plus importants au vrai progrès que la fin. C'est une phrase qu'on trouve dans un roman de Romain Rolland paru pendant la Première Guerre mondiale, Clérambeau. Je répète, les moyens sont encore plus importants au vrai progrès que la fin. Écrivain engagé, oui, dans la mesure où cet engagement se soumet aux impératifs d'une éthique exigeante. Double révolte en somme, révolte contingente, qui est politique et sociale, mais aussi révolte permanente au nom de la conscience individuelle. Le deuxième point de convergence entre Rolland et Hugo, c'est que nous avons affaire, dans un cas comme dans l'autre, à des gens que, faute de mieux, j'appellerais des croyants, c'est-à-dire des esprits profondément religieux. Entendons-nous bien, pour la religion, contre les religions, selon l'expression de Victor Hugo lui-même. Contre les religions, c'est-à-dire évidemment contre les cultes, pour la religion, c'est-à-dire pour réaffirmer les droits de la spiritualité. Pour reprendre une expression hugolienne célèbre, eh bien, on peut dire que Rolland, lui aussi, toute sa vie, a voulu être debout mais incliné du côté du mystère. Voilà pourquoi, eh bien, il n'hésite pas à critiquer le simplisme de la pensée laïque. Voilà pourquoi, dans ce livre de souvenirs spirituels, qu'est Le Voyage intérieur, écrit en 1925, Romain Rolland écrit « Mon premier acte d'énergie fut de rompre avec ma religion, ce fut mon acte le plus religieux. » Et Rolland imagine ce que lui dit Dieu, « Ne pas croire, c'est encore croire, tu ne me nierais point si nous n'étions aux prises. » Et toujours dans Le Voyage intérieur, Romain Rolland réaffirme sa foi en l'être unique, infini, l'être qui est tout l'être et hors duquel il n'y a rien. Nous avons donc effectivement deux esprits préoccupés de transcendance et qui, pour des raisons analogues, en viennent à récuser le matérialisme omniprésent. Et on sait que dès 1840, un poème intitulé « Les deux côtés de l'horizon » est repris dans un recueil tardif, repris dans toute la lyre, donnait à Victor Hugo l'occasion de dénoncer ce passage d'une civilisation et une autre. Je cite « L'Amérique surgit et Rome meurt ». Nous avons donc le témoignage d'une inquiétude profonde devant une crise des valeurs, devant le triomphe de la matière, crise de civilisation qui condamne au déclin le vieux monde et que Rolland ressent avec beaucoup d'acuité lorsque, dans son introduction à la vie de Beethoven, qui est de 1903, il condamne ce matérialisme sans grandeur qui, selon lui, envahit la vieille Europe. Alors, j'en viens maintenant donc à ce troisième point qui est effectivement le rêve européen. Là, je passerai assez vite, puisqu'il n'est guère original de rappeler que Roland a été, après Hugo, un grand défenseur de l'idée européenne. L'Europe comme patrie commune à tous les esprits qui l'habitent, c'est le thème essentiel du livre « Au-dessus de la mêlée » écrit pendant la Première Guerre mondiale. L'Europe nécessaire, à la fois comme ensemble de nations, comme culture et comme force spirituelle. L'Europe dont l'Union préfigurera ces États-Unis de l'humanité dont parle Roland en 1928. Alors, il y a là précisément de quoi dissiper un malentendu, puisqu'en 1916, dans son journal, André Gide, parlant du Jean-Christophe, taxait Roland de germanisme. Je crois plutôt que dans sa réflexion sur l'Europe, Roland retrouve spontanément une attitude très présente dans le romantisme français et illustrée avec éclat par Hugo, qui est la sympathie au sens étymologique du terme pour l'Allemagne, ce qui fait qu'il retrouve le Victor Hugo de 1842, celui qui, dans le Rhin, déclarait que s'il n'était français, il voudrait être allemand. Alors, une attitude, bien sûr, des convictions, des thèmes analogues, le mimétisme est trop constant, les convergences, les points de convergence sont trop nombreux pour être fortuits. Il est d'ailleurs remarquable de voir que du vivant même de Roland, ses lecteurs les plus enthousiastes semblent considérer comme tout naturel, comme allant de soi, le rapprochement entre Roland et Hugo. En 1936, Romain Roland a 70 ans. Intellectuel et homme politique de gauche se rassemblent en son honneur à la mutualité. Et Aragon lui écrit, je cite, « Paris n'a jamais fêté quelqu'un comme cela, même pas Hugo ». Aragon, qui, on le sait, fera 10 ans plus tard campagne pour le transfert des cendres de Roland au Panthéon. « Vous êtes ou vous devez être notre Victor Hugo », c'est ce que lui disent ses lecteurs les plus fervents. Alors, je crois que de toute évidence, Romain Roland a toujours été hanté par l'exemple de Hugo, grand écrivain, prédicateur laïque, témoin majeur, écho sonore et conscience de son temps. Voilà pourquoi il me semble que Romain Roland prétend à un magistère intellectuel et moral du même type que celui de Victor Hugo, fût-ce au prix de la solitude. Une solitude de toute façon transitoire, car elle n'est pas celle du réprouvé ni du maudit. Tôt ou tard, la société reconnaîtra sa dette à cet ermite qui sait qu'être seul à défendre une conviction forte, c'est encore et toujours être au service des hommes. Je pense donc que si l'image que Roland a de Victor Hugo lui permet indiscutablement de se construire un personnage, en revanche, cette image le bride dès lors qu'il va se mettre à faire de la littérature. C'est-à-dire que, prisonnier du discours dominant, Roland schématise Hugo, le simplifie. Ce qu'il voit en lui, c'est l'éducateur des masses et le maître d'une grande littérature populaire, c'est-à-dire d'une littérature édifiante. Et il se dit que pour accomplir comme écrivain la mission que lui impose son personnage, il se doit à son tour de prolonger cette tradition d'une littérature, je le répète, édifiante. Ce faisant, évidemment, il ne remet jamais en question cet a priori d'un art démocratique, immédiatement accessible à tous, et dont Hugo serait selon lui le modèle. Alors, il y a un texte de 1935 extrêmement intéressant qui s'appelle « Du rôle de l'écrivain dans la société d'aujourd'hui ». Et dans ce texte, Romain Roland définit très clairement son entreprise littéraire en la rattachant explicitement à la tradition hugolienne. Je cite « Je me méfie de l'écrivain qui ne peut être lu que de quelques-uns. Quand j'étais jeune, j'ai fait mon profit de cette boutade du vieux Tolstoï. Cela ne m'intéresse point d'écrire pour moins de 100 000 lecteurs. Au cours de mes expériences, assez brèves mais frappantes, dans l'enseignement primaire, parmi une population de gamins turbulents, j'ai fait l'épreuve de l'emprise qu'avait sur eux la lecture des Misérables de Hugo. La classe entière béait dans un recueillement passionné. Voilà pourquoi, fin de citation, voilà pourquoi Roland va se lancer en toute bonne foi dans l'entreprise d'une littérature à fonction illustrative et pédagogique. Et je crois que l'erreur de Roland est en effet celle de beaucoup de ses contemporains, avoir cru que Hugo, parce qu'il est accessible et relativement simple, avoir dans une certaine mesure méconnu la complexité de cette œuvre en y voyant purement et simplement l'application de certaines recettes. Recettes qu'il lui suffirait à son tour de mettre en pratique pour apporter sa pierre à la nouvelle Bible de l'humanité. Le résultat, c'est que dans beaucoup de cas, on a l'impression à le lire d'une marqueterie de procédés qui se veulent hugoliens, quand ils ne sont en réalité que le résultat d'un véritable gauchissement, un gauchissement qui amène Roland à amplifier, à caricaturer et dans le pire des cas, à trahir. Les a priori de Roland le mènent à produire en effet une littérature nourrie de mythes, d'allégories, de bons sentiments. Une littérature mythique donc. Oui, à la suite de Hugo, Roland veut alimenter une mythologie nouvelle. Créer des mythes, c'est-à-dire des récits à la fois légendaires et pédagogiques, mettant aux prises les formes élémentaires du comportement humain, et d'autant plus percutant qu'ils excluent la complexité. On peut créer des mythes nouveaux, on peut aussi et surtout revisiter les mythes existants pour les renouveler, les réécrire, les réinterpréter. Roland semble souvent reprendre des thèmes présents chez Hugo, mais ces thèmes, il ne se contente pas de les traiter. Il les schématise ou les appauvrit, ou encore il les détourne. Dans le sillage de Hugo, Roland a l'intention de mettre en scène l'épopée de l'humanité montant vers la lumière, avec ses figures ou ses périodes mythiques qui sont autant d'étapes sur cette route. J'en citerai deux exemples. Le premier exemple est celui de l'utilisation faite de la figure du Christ, qui, dans cette optique, n'est plus celle de Dieu, mais de l'homme en révolte. La figure christique comme figure révolutionnaire, l'idée, c'est vrai, apparaît chez Hugo lui-même. Je pense en particulier au texte en prose et aussi en vers qui évoque la mémoire de l'anti-esclavagiste américain John Brown. Alors, dans le roman de Roland qui s'appelle Clérambeau et qui est le roman du juste en butte au bellicisme ravageant l'Europe depuis 1914 et dont l'assassinat est une moderne mise en croix, Roland, lui, reprend ce thème, mais là où Hugo se contentait d'être allusif et ne présentait cette idée que parmi d'autres considérations et sans s'y arrêter trop longuement, Romain Roland, lui, accentue le didactisme qu'il croit trouver chez Hugo. Se limitant à ce thème unique, il procède pendant toute la fin du roman à une espèce de martèlement emphatique, de long parallélisme. Un martèlement qui systématise et amplifie le parallélisme, je cite, « Jésus n'a pas été mis en croix par hasard, il devait être, il serait encore supplicié, l'homme de l'évangile est le révolutionnaire, de tous le plus radical, et toute la fin du roman est ainsi consacrée à cette analogie explicitement soulignée, mais de manière extrêmement redondante. » Alors, à côté de ces figures mythiques, il y a les périodes mythiques. Ces grands moments de l'histoire aptes à susciter une mythologie, et je pense en particulier à la manière dont Roland va traiter de la Révolution française. Alors, dans sa préface à mon théâtre, Roland recommande, je cite, « d'explorer la légende de la Révolution qui est devenue le véritable fond de l'âme nationale ». Fin de citation. Et cette ambition donne quelque chose qui est complètement oublié aujourd'hui, mais qui est quand même intéressant, c'est le théâtre de la Révolution. Dans les pièces les plus connues, notamment le 14 juillet, et surtout Robespierre, me paraissent dans une certaine mesure tributaires du grand roman que Hugo a consacré à la Révolution et qui est 93. Pourquoi la Révolution? C'est que, moment d'un paroxysme historique, elle se prête, plus que d'autres périodes peut-être, et comme dans 93, à la stylisation des situations et des types historiques ou humains. Mais surtout, ce qui fait la dimension mythique de la Révolution, c'est que ce moment paroxystique est aussi celui d'une angoisse historique majeure.
c'est-à-dire déclencher au nom d'idéaux la révolution en instaurant la terreur qui trahit ses idéaux, n'organise-t-elle pas son propre suicide? Mais sans terreur, la révolution peut-elle se poursuivre? On sait que c'est une des grandes questions posées par Victor Hugo dans 93, et je reprendrai donc des termes utilisés d'ailleurs dans un fragment du Reliquat de 93. Il s'agit de choisir entre la justice et la loi. La tragédie de toute révolution est là, se trahir, se suicider en s'accomplissant. Et c'est cette question précise que reprend Roland dans le théâtre de la Révolution, et notamment avec le Robespierre qui est de 1939. Je cite Romain Roland dans sa préface, dans la préface de son Robespierre, « Tous les hommes que je mets en scène sont de sincères et passionnés républicains. Et cependant, ils vont s'acharner à détruire leur œuvre, la République. J'ai vu la sincérité de tous ces hommes qui s'exterminent et la fatalité terrible des révolutions. » On souhaiterait que Roland reste là. À cette interrogation tragique, à cette angoisse sur le destin des révolutions, au lieu de quoi, eh bien, il va nous ramener brutalement à l'actualité de son époque, actualité brûlante, évidemment, et nous donner des œuvres qui sont des œuvres nourries d'allusions tout à fait transparentes, en particulier à la Russie soviétique et au mouvement communiste international. C'est-à-dire que la réflexion qu'alimentait le mythe révolutionnaire aboutit tout simplement chez Roland, par une espèce de détournement, à ce qui est, il faut bien le dire, une sorte d'apologie de l'URSS, URSS qu'il faut à tout prix soutenir. C'est vrai que nous sommes en 1938, que le moment historique est particulièrement grave, mais c'est aussi le moment des pensées de Moscou. Et alors, la didascalie qui clôt le Robespierre est à ce titre tout à fait explicite. Je vais lire d'ailleurs cette didascalie. C'est la fin, n'est-ce pas? Robespierre est mort, la révolution est détruite. Hoche entonne la Marseillaise, le peuple entier se met à chanter la Marseillaise, et Roland ajoute « Et je voudrais qu'un Darius Milhaud ou un Honegger en fit sortir une puissante internationale qui, enfantée d'elle, la recouvrit et l'absorba. » Donc la pièce se termine sur une Marseillaise qui devient une puissante internationale. Alors évidemment, si Hugo, exploitant le mythe de la Révolution, posait une question sans y répondre vraiment, quelle que soit au demeurant la sincérité de ses convictions, Roland, lui, ne se contente pas de poser des questions. Il y répond, et de manière très explicite, et tout à fait ancré dans l'actualité de son temps, quitte à jeter par-dessus bord, s'il le faut, le principe affirmé 25 ans plus tôt dans Clérambault, de la primauté des moyens sur la fin, quitte à trahir sa conscience. Et sa réponse, c'est oui, oui à la révolution, et oui, sinon à la personne de Staline, du moins à l'Union soviétique. Nous sommes là en présence d'un art à fonction démonstrative. Créer et exploiter les mythes, c'est déceler ces analogies qui sont autant de signes de ce qu'est le sens de l'histoire. Mais à la méditation de Hugo, qui écoute l'histoire aux portes de la légende, selon une formule célèbre, et qui dépasse ainsi les événements contingents, Roland substitue un point de vue partisan qui nous ramène aux événements au lieu de nous élever au-dessus d'eux, de sorte que l'œuvre de Roland se clôt non sur une interrogation, non sur une angoisse comparable à celle qu'inspire 93, mais bien sur une espèce de certitude confiante. Alors, je crois que l'un des procédés par excellence de ce didactisme, l'allégorie qui est liée naturellement à l'ambition de créer des mythes, eh bien, ce procédé est poussé à l'extrême dans les romans de Romain Roland. Bien sûr, bon, on peut dire que marchant sur les traces des misérables, il se lance dans des fresques englobant toute une époque et qui s'organisent autour de la vie d'un héros, figure symbolique en lutte avec le monde. Mais je crois que ce qu'il faut bien préciser, c'est que cette production romanesque répète invariablement les mêmes schémas. C'est-à-dire que cet affrontement avec le monde est l'occasion d'une transfiguration qui permet au héros de se révéler aux autres, de se révéler à lui-même, une transfiguration qui le fait plus grand et meilleur. Son destin est d'être reconnu. Alors, s'il s'agissait là encore bien d'un thème que l'on trouve évidemment chez Hugo, celui de la reconnaissance, je pense au roman et au drame de Hugo, encore faut-il préciser que Roland traite ce thème avec une certaine sorte de confiance et même d'optimisme qui, là encore, nous amène bien loin de Hugo, mais n'est à tout prendre que la rançon du didactisme. Non pas que les tragédies en soient absentes, mais ces romans se terminent toujours par un acquiescement serein et libérateur à l'ordre universel. C'est dans Clérambault, le juste assassiné qui, au moment de mourir, a le temps de goûter la paix des mondes à venir. C'est dans L'âme enchantée, la certitude finale qui habite le personnage central, celle d'avoir atteint la liberté, d'avoir fait de sa vie un lent travail de désenchantement au sens positif du terme, c'est-à-dire de dépouillement des illusions et des mensonges de la société. En somme, tout est bien qui finit bien. Aboutissement attendu de cette épopée de la reconnaissance, aboutissement attendu de toute littérature édifiante. Alors, cette littérature pédagogique, et qui exclut l'ironie, puisera évidemment encore dans une lecture très hâtive de Hugo quelques-uns de ses effets les plus voyants, en particulier l'hyperbole et la métaphore, mais là encore au prix d'un appauvrissement des procédés. Je cite un extrait de Clérambault. Dans le noir destin du monde, de quel épi tombé, roule depuis le chaos la semence de lumière. Au fond du cœur sauvage de l'homme, la frêle s'incrusta. Le long du flot des âges, elle subit l'assaut des lois élémentaires qui ploient et broient la vie. Mais inlassablement, le grain d'or a grandi. Alors, il y a dans ce bref extrait tout ce qu'on peut reprocher en général à la prose de Roland. Emphase, métaphore prévisible, banale, ajoutées les unes aux autres sans souci de cohérence. Car si la métaphore telle que l'entend Hugo est toujours ce qui nous entraîne hors du quotidien par son étrangeté, si c'est toujours un choc, eh bien, chez Roland, au contraire, les métaphores n'ont rien que de très attendu. Ancrées dans le quotidien, dans l'usage populaire à seule fin d'être accessible, car il est entendu que le peuple étant bon par nature, par le vrai, par le juste, ce sont des clichés. Comme si l'usage du cliché était preuve de sincérité et garantie de lisibilité. Le parti pris d'être accessible ouvre donc la voie à une littérature d'expédients, et c'est d'ailleurs pourquoi cette prose fourmille de vers blancs, en général des alexandrins, des simili-alexandrins, ce qui n'est jamais le cas chez Hugo, comme s'il fallait à Roland, par des procédés aisément repérables, habiller le texte des signes les plus indiscutables de son caractère littéraire. Alors, je conclurai en disant qu'il n'est évidemment jamais souhaitable d'accéder au statut d'écrivain officiel. Cela revient à payer cette gloire d'une rançon bien amère, qui est n'être pas lu, ne l'être que partiellement, être enfermé dans une image qui fait oublier la complexité de l'œuvre. C'est enfin susciter des épigones qui, si sincères soient-ils, partent d'a priori littéraires très réducteurs et trahissent le maître dont ils se réclament. Par un étrange retournement, une écriture de la liberté, celle de Hugo, traîne dans son sillage une écriture asservie, celle de Roland. Naturellement, la référence à Hugo ne suffit pas à éclairer tous les aspects de Romain Rolland. C'est une œuvre intéressante, c'est un témoignage très précieux. Du moins, la référence à Victor Hugo permet de mettre en valeur une caractéristique importante des écrits de Rolland, de souligner qu'en somme, Romain Rolland n'a pas voulu prendre son parti de cette désillusion qui a suivi l'écroulement du rêve romantique et qui continue à croire contre vents et marées que l'écrivain peut et doit être un mage. D'où le caractère très anachronique de cette production littéraire. Proust, dans une page célèbre du Contre Sainte-Beuve, cloue au pilori l'ambition de Roland, et je cite Proust. Il parle du choix, le choix ou plutôt l'absence absolue de choix de ses mots, de ses phrases, la banalité rebattue de toutes ses images. Fin de citation. Bien, Romain Rolland reste un écrivain dont on souligne comme à plaisir les naïvetés ou les platitudes, mais qui les revendique au nom de la clarté, de l'accessibilité. Je cite Romain Rolland lui-même dans Jean-Christophe, « Parle droit, parle pour être compris, compris non pas d'un groupe de délicats, mais par les milliers, par les plus humbles, et ne crains jamais d'être trop compris, parle sans ombre et sans voile, clair et ferme, au besoin, lourd. » Fin de citation. Littérature simpliste, univoque, édifiante, allégorique, littérature démagogique excluant la dénonciation, eh bien nous ne sommes pas loin de ce qui ailleurs s'est appelé le réalisme socialiste. C'est à quoi conduit cette image scolaire du grand écrivain, tel que Victor Hugo en serait le plus illustre exemple. Un Hugo dont l'œuvre a longtemps été considérée comme une œuvre de prédication, au procédé visible et allant jusqu'à la niaiserie. Et on sait que si une légende a eu la vie dure, c'est bien celle de la bêtise de Victor Hugo, légende forgée déjà de son vivant et que la dévotion de rigueur ne pouvait par réaction qu'amplifier. On sait que dans les années 20, Hugo, parce que précisément il était le poète officiel, ou il avait été le poète officiel de la République, eh bien il a été du même coup, si je puis ainsi parler, snobé par les élites littéraires. Quand Paul Valéry, par exemple, dit que Hugo est un milliardaire mais que ce n'est pas un prince, il traduit bien ce relatif mépris pour un écrivain dont la complexité a été en fait occultée. Alors tout cela permet de mieux comprendre le destin qu'a connu l'œuvre de Roland. C'est-à-dire que si Hugo le prophète a ainsi dès les années 20 subi littérairement du moins une période de purgatoire, et si c'est Hugo le poète qui en est ensuite ressorti, Roland lui a suivi Hugo le prophète au purgatoire mais pour ne jamais en ressortir. Cela dit, les questions que pose cette œuvre donnent lieu à un débat qui, lui, est périodiquement rouvert. On peut se demander, par exemple, si un Malraux, dans certains de ses textes, et je pense à l'espoir, ne renoue pas implicitement avec cette ambition d'une écriture symbolique et mythologique. Ambition qu'une hugolatrie naïve avait sans doute inspirée à Roland, faisant de lui le représentant de ce que j'appellerais un académisme populaire, bien éloigné en fait de l'œuvre de Hugo. Je vous remercie de votre attention.
Merci, je vous remercie de votre intervention et plein d'enseignements sur les influences, mauvaises selon vous et de Victor Hugo sur...
C'est pas la faute de Victor Hugo.
Oui, bien sûr. Comme indiqué dans le programme, on passe tout de suite aux questions et peut-être qu'on peut consacrer 10 minutes à cette partie de questions. Donc, je propose au public de prendre la parole.
Oui.
J'ai une question, c'est très, très naïf. C'est quelle est l'origine de ton intérêt pour Romain Rolland, puisque la thèse de ton exposé est de dire que c'est pas très bon. C'est une première question. Et une question complémentaire, c'est quel est, à ton avis, l'héritier digne de Victor Hugo?
Héritier digne de Victor Hugo, je pense qu'il n'en a pas. Donc ça, je commence par la fin. Romain Rolland a été des souvenirs scolaires pour moi. C'était surtout un auteur de dictée. Et puis bon, j'avais un professeur qui était un grand admirateur de Rolland et qui l'a lu beaucoup et qui nous conseillait de lire Jean-Christophe. Alors j'ai commencé par Jean-Christophe. Et je crois que ça reste bon. Littérairement, c'est vrai que c'est un échec. Cela dit, ça reste quand même extrêmement important dans l'histoire des idées. Et je crois que la personne de Romain Rolland est très intéressante, que par ailleurs, c'est une œuvre extrêmement complexe. Hein, et que, il est évident que y a beaucoup de choses qui ont joué et qui ont déterminé Romain Rolland. C'est pas seulement Victor Hugo. On pourrait parler de Tolstoï, de la philosophie du XVIIIe siècle, etc. Et je pense que si on veut avoir une idée de ce qu'est l'engagement en littérature dans la première moitié du XXe siècle, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur Romain Rolland. Mais ça reste une œuvre, tout de même, intéressante à beaucoup d'autres points de vue. Je pense que les musicologues, par exemple, s'il y en a ici, sont souvent très intéressés par Romain Rolland. Il est vrai que sa correspondance avec Strauss est également très intéressante. Et donc c'est une œuvre qui a aussi d'autres aspects.
Monsieur Arnaud Lester. Oui.
Je m'associe aussi à l'intérêt qui s'est manifesté pour la communication. Lorsque vous avez évoqué Malraux à la fin, j'ai montré le petit papier où j'avais écrit ce nom entre ceux d'Aragon et de Sartre. Et vous avez vous-même d'ailleurs mentionné le fait qu'Aragon avait préconisé l'entrée de Romain Rolland au Panthéon. Et j'ai le sentiment que ces trois écrivains, entre autres, Aragon, Malraux ou Sartre, à leur façon, chacun, revendiquaient d'être, d'une certaine façon, Victor Hugo, un Victor Hugo du XXe siècle. Et que il y a une ambition chez les écrivains français engagés du XXe siècle, du moins chez quelques-uns d'entre eux, d'être de nouveau Victor Hugo. Alors ça peut prendre d'ailleurs des formes critiques. Les mots de Sartre sont en partie un règlement de compte avec le grand-père et avec sa dévotion hugolienne, n'empêche qu'il y a bien des convergences dans les attitudes de Sartre et dans celles de Victor Hugo, et il y a probablement chez Sartre un désir assez profond de représenter quelque chose d'analogue, il l'a dit explicitement d'ailleurs, à la puissance de communication que Hugo a su trouver entre son œuvre et les masses. Voilà, donc c'était simplement une réflexion un petit peu plus large que je proposais sur le rapport des écrivains, et notamment des écrivains engagés, au modèle hugolien. Mais il me semble très présent chez ces trois écrivains.
Certainement.
Autre question.
Maurice Méchonique.
Henri Méchonique.
Merci. Didier, il y a un numéro de la revue Europe de 1935, c'était le cinquantenaire de la mort, où il y a un article de Romain Rolland où il raconte qu'il l'avait rencontré, mais vous y aviez fait un peu allusion, des paysans qui savaient par cœur des passages entiers, non seulement des vers, mais même des, je crois, des Misérables, si je me souviens bien. Alors ça, c'est le côté document d'époque. Mais il y a un autre aspect quand même, parce que c'est vrai que Romain Rolland coule à pic là dans votre exposé. Mais il y a quelque chose, moi, que je trouve quand même qui est digne d'une certaine attitude de Hugo, c'est que vers 1915-1916, il est, je crois bien, en Suisse, c'est au moment où il écrit « Au-dessus de la mêlée », et alors que tous les intellectuels français et tous les intellectuels allemands sont d'un militarisme irrécupérable, il est le seul, et c'est pas pour rien qu'il écrit au-dessus de la mêlée, il est le seul à être contre la guerre, pratiquement. Ils sont tous bellicistes, tous ces intellectuels, tous ces écrivains. Maintenant, il y a aussi un troisième aspect, dans ce que vous disiez, c'est, vous disiez, il est prix Nobel 1915.
Oui.
Ben, il ne faut jamais oublier que le premier prix Nobel, c'était Sully Prudhomme.
Oui, Sully Prudhomme, oui.
Oui. C'est-à-dire que c'est un bel apologue aussi de la nullité du Nobel. Oui. Je veux dire que ça ne prouve rien, le Nobel, quoi.
Non. Non, ça ne prouve rien. Mais effectivement, bon, je pense que la lucidité de Rolland pendant la Première Guerre mondiale a été exemplaire. Je crois que dans l'attitude, Rolland est quelqu'un qui, toute sa vie, a cherché l'exil, mais l'exil au service de tous. Et ça, c'est très hugolien. Cette manière de partir pour la Suisse, et ensuite, bon, à la fin de sa vie, il était dans son exil intérieur à Vézelay. Et effectivement, bon, c'est cette manière, cet exil, mais qui n'est pas cet exil au service de tous. Oui, c'est aussi une attitude très hugolienne.
Peut-être une autre question, madame.
Madame Nogrette.
Oui, et puis, On peut rajouter aussi dans cette filiation le travail de Romain Rolland pour la formation d'un véritable théâtre populaire.
Oui.
Là, il y a aussi une filiation qui va des dramaturges du XVIIIe siècle, Mercier, Hugo, Romain Rolland, jusqu'à, bon, en passant évidemment par d'autres relais, Potcher, Copeau, mais enfin, là, il y a vraiment une action qui reprend dans les, un petit peu dans la même perspective que Hugo, qui s'est battu pour que véritablement le théâtre devienne un service public, même si le terme n'était pas employé par Hugo. Rolland a servi de relais pour ce que nous connaissons, nous, aujourd'hui, comme un théâtre qui est un service public.